Europe 1. Écoutez le monde changer.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Nicolas Dupont-Aignan, bonjour.
Bonjour Mickaël Darmon.
Pour le philosophe Edgar Morin, il y a une contradiction indépassable entre la souveraineté absolue des États et la nécessité d'une gouvernance mondiale pour les problèmes planétaires vitaux. Voilà qui résume ce qui incombe aux gouvernants et aux candidats à gouverner. Comment protéger les intérêts des pays tout en partageant les données et les informations pour trouver le moyen de gagner la bataille contre la pandémie, contre les menaces de toutes sortes, d'où qu'elles viennent, des États ou des idéologies. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, crédité de 7% dans les sondages pour l'instant, mais il y a un chiffre que vous retenez surtout, c'est celui du nombre de vos interactions sur Facebook. Plus de 5 millions d'interactions de gens qui participent à vos vidéos, ce qui vous met devant vos concurrents comme Marine Le Pen ou Xavier Bertrand ou d'autres en tout cas, selon ce classement. Vous nous direz comment votre programme s'adapte à la pandémie et où serez-vous cette fois puisque vous vous êtes éloigné, dites-vous, de Marine Le Pen, au point que d'ailleurs des cadres de votre parti Debout la France vous ont quitté. Eux, ils ont dit debout et en marche vers le RN. Alors, en cas d'appel d'union à l'Union nationale et aux Républicains, est-ce que vous choisirez, comme on dit, la politique de la chaise vide? Vous allez nous le dire ce matin pour votre grand rendez-vous. Je salue Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews qui ouvre cette émission.
Oui, Nicolas Dupont-Aignan, à Dunkerque, ville sous cloche en raison de la situation sanitaire très particulière, un fort taux de variant anglais qui a été détecté. Le maire de la ville demande de la responsabilité à ses habitants. Je vous propose qu'on l'écoute.
Le ministre a choisi de rajouter un confinement le week-end. Je comprends à un moment donné que l'État puisse prendre cette responsabilité et je pense qu'il faut que maintenant l'ensemble des Dunkerquoises et des Dunkerquois adoptent les bons gestes qui nous permettront de sortir de cet état difficile dans lequel on est aujourd'hui.
Nicolas Dupont-Aignan, un confinement local à Dunkerque, aussi à Nice, valable le week-end. 20 départements sont sous surveillance. C'est un confinement local qui appelle un confinement national, très vite.
Bonjour Damien Fleurot. D'abord, vous dites Dunkerque est sous cloche. Dunkerque est sous cloche le week-end. Mais le virus s'arrête en semaine. Et donc on est dans la situation la plus absurde, la plus ubuesque qu'on n'aura jamais connue. Où on dit aux habitants de Dunkerque et de Nice, vous pouvez vous entasser dans les bus, dans les tramways, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller dans la cantine de l'entreprise en semaine parce qu'il n'y a pas de virus en semaine. Mais le week-end, alors que vous pourriez aller au Grand Air, là où il y a le moins de virus, vous êtes enfermé et il y a des contrôles de police qui verbalisent à tout va comme si on était en état de siège.
On réduit
c'est
les
n'importe
flux.
Quoi.
On réduit les flux, non, on réduit la circulation
quoi.
Des habitants
non, c'est
au moins
quoi.
Deux jours dans la semaine.
Non mais au moins deux jours, c'est n'importe quoi. Je crois qu'on n'aura jamais atteint une situation aussi grotesque dans notre pays depuis longtemps. Car soit la situation à Dunkerque est très dangereuse, et c'est un confinement total, soit la situation à Dunkerque est peut-être périlleuse, et il faut, et le maire de Dunkerque avait raison d'ailleurs bien avant, il faut éviter les rassemblements, avoir des gestes barrières, ce que je propose d'ailleurs depuis des mois, être rigoureux, mais l'enfermement à domicile des Dunkerquois et des Niçois est contre-productif sur le plan sanitaire.
Parce que ce n'est que
je
deux
vois
jours.
Des
parce
CRS.
Que ce n'est que deux jours.
Mais bien sûr, et surtout parce qu'il faut, pas, il faut sortir. Le virus s'attrape à l'intérieur. Et tous les médecins vous le diront, je vois des CRS, sur les images en face de moi là, des CRS qui patrouillent sur la plage. Mais comment peut-on être aussi débile, pardonnez-moi, dans notre pays au XXIe siècle? En revanche, pour éviter l'aggravation d'une épidémie, il y a des mesures que je propose depuis des mois de rigueur, et on en reparlera. Mais là, vraiment, je crois que les Français ont compris qu'ils n'étaient pas gouvernés.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous dites c'est n'importe quoi. Jean Castex dit c'est du sur-mesure. Et surtout, Emmanuel Macron veut éviter autant que possible un confinement général. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette ligne?
Mais bien sûr, puisque depuis la sortie du premier confinement, que j'ai approuvé, parce que reprenons quand même les choses clairement. Premier confinement, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'expérience. Il fallait confiner.
Donc là, c'était la seule
solution.
Et j'ai
été le premier à dire
oui.
Oui. Ensuite, quand il y a une expérience, j'ai fait des propositions très constructives sur les frontières. On a attendu un an, malheureusement. sur la protection des plus fragiles, notamment le masque FFP2. Madame Merkel en a distribué 15 exemplaires à 27 millions de foyers allemands les plus fragiles. J'attends toujours et je l'ai réclamé 100 fois au ministre. Toujours pas fait. Troisième point, augmenter les lits de réanimation et les lits d'hôpitaux pour assumer, dimensionner notre hôpital public et soulager nos soignants.
Ça, l'hôpital public, il travaille.
On l'a pas fait, non.
Ouais, ils y travaillent,
non.
Si.
Non, c'est faux, non.
On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait depuis un an.
Il y a le exactement. Ségur de la santé qui a été lancé.
Non.
On
ne
peut pas dire qu'on
n'a
rien fait depuis un an, non. L'hôpital public travaille à ça.
Non, on est exactement au même nombre de lits de réanimation, 5080, et Jean Castex a déclaré dans Ouest France au mois de février, ce serait idiot de dimensionner l'hôpital au niveau d'une épidémie centenaire, ce n'est pas nécessaire. Et je vous rappelle que le concours des réanimateurs, des internes, cette année, 74 postes ouverts contre 72 l'année dernière. Donc on ne dimensionne pas l'hôpital public pour absorber les futures pandémies.
Alors,
et dernier point, et j'ai fini, les soins. Il faut soigner précocement nos concitoyens, ce qui n'est pas fait.
D'accord, mais alors, donc sur la ligne du président de la République actuel, d'éviter autant que possible un confinement général, ça vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron?
Je suis totalement d'accord avec l'objectif, totalement d'accord, puisque je le réclame depuis des mois. En revanche, pour éviter un confinement, c'est-à-dire éviter la catastrophe pour le pays, le suicide définitif, il faut prendre des mesures ciblées, beaucoup plus fortes. Et c'est là où les propositions que je n'ai cessé de faire, notamment, et je le répète, sur les lits d'hôpitaux, pour soulager le personnel qui se dévoue de manière incroyable. Et pour les soins, j'insiste, nous sommes dans un pays où le ministère de la Santé, M. Salomon, qui s'exprime fièrement aujourd'hui alors qu'il a tout échoué,
dans le journal du dimanche,
tout échoué depuis
un an, selon son
interview
contre
Salomon,
la maladie.
Par exemple, n'a pas accéléré les recherches de l'Institut Pasteur de Lille qui doivent être subventionnées par LVMH sur une molécule très intéressante. C'est pas accéléré, il a refusé en février dernier. L'ivermectine, qui est généralisée dans beaucoup de pays, et même en Israël, avec une étude du professeur Schwartz qui dit même Israël, qui a beaucoup de vaccins, commence à se mettre à l'ivermectine qui permet de faire baisser la charge virale. Heureusement qu'on a des médecins libres qui, dans notre pays, je peux vous assurer, prescrivent malgré les consignes de l'autorité de l'État. Donc on est dans un pays où on ne soigne pas les malades précocement, on les soigne après à l'hôpital, et où on enferme les bien portants, mettant en cause nos libertés et ayant des conséquences psychologiques sur la jeunesse terribles pour l'avenir. Donc
on va revenir sur tous les thèmes que vous soulevez.
Si le président veut réussir dans son long confinement, il faut changer de politique.
En attendant, on va revenir sur tous les thèmes que vous soulevez. Oui. Nicolas Dupont-Aignan, en attendant, votre département, l'Essonne, est concerné par donc, la liste des départements mis sous surveillance et avec des mesures qui sont annoncées pour la semaine prochaine, le 6 mars. Qu'est-ce que vous savez en l'état actuellement des mesures qui se préparent? Est-ce qu'on vous concerte?
Oh non, on ne nous concerne plus. Comme responsable politique, président de parti, j'ai été concerté sur 10 réunions interministérielles. Et comme le gouvernement ne voulait que des bénis oui-oui, nous ne sommes plus invités.
Mais en tant qu'élu local?
Alors, en tant qu'élu local, nous sommes informés. Je n'ai pas plus de chiffres que vous. D'ailleurs, ce qui est très curieux dans cette affaire, et vous pourrez regarder à Nice, je n'arrive pas à Nice à avoir le taux de reproduction du virus. Il est de 0,94 sur l'ensemble de PACA, c'est-à-dire qu'il décroît. Sur Nice, on n'arrive pas à l'avoir, comme par hasard. Et sur l'Île-de-France, il est certain que le variant progressant, il y a une légère montée. Maintenant, est-ce que c'est de nature à aller à ce confinement du week-end qui serait complètement contre-productif sur le plan sanitaire? Je ne l'espère pas. Je pense au contraire, je vous le répète, les masques FFP2 pour les plus fragiles et les soins. Et je lance d'ailleurs aujourd'hui une grande pétition sur Internet pour que des millions de Français puissent demander au gouvernement de généraliser des pratiques de soins précoces, ivermectine, donner de la vitamine D pour protéger l'immunité collective et vraiment accélérer les recherches, tout faire pour que parallèlement au vaccin, on ne mette pas tous les œufs dans le même panier et qu'on développe les soins précoces.
Alors à propos méthode, Damien Fleurot.
Oui, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne et même dans d'autres pays, on constate que finalement, le confinement fonctionne puisque certains secteurs d'activité outre-Manche vont rouvrir. C'est finalement la bonne méthode.
Mais le confinement fonctionne Quand on est à une catastrophe et quand on n'a pas pris les mesures qui s'imposent, mais je vous rappelle encore une fois, ça fait un an, attendez, c'est le troisième échec. C'est le troisième échec. Et donc, on peut accepter un premier confinement. Mais aujourd'hui, un nouveau confinement serait un suicide sanitaire parce que d'autres maladies ne seront pas soignées, social et économique. Nous ne le pouvons plus. Donc, il faut agir en amont. Et vous dites, la Grande-Bretagne s'en sort, et nous, mais nous, heureusement, on voit bien que l'épidémie est en train de passer. Elle va passer. Il faut simplement protéger les plus fragiles. Ce que je ne comprends pas dans la stratégie actuelle.
On attend les variants. Mais dans tous les pays,
ce n'est pas parce que des variants se substituent à la souche initiale que les variants ne vont pas passer. Le tout, c'est de protéger les Français qui sont en risque.
C'est ce qui a été fait avec la vaccination des plus de 80 ans.
Non. En partie, mais...
Pourquoi en partie ?
En partie parce que vous voyez bien que le gouvernement n'arrive pas à vacciner toutes les personnes en comorbidité.
La population âgée de plus de 80 ans, elle est largement vaccinée aujourd'hui.
Vous savez qu'il y a des personnes en comorbidité vulnérables. Ce que je demande, c'est qu'on passe d'une stratégie d'enfermement à une stratégie de protection ciblée. Un pays comme la Suède n'a jamais confiné et a exactement le même taux de mortalité que la France.
Pas exactement la même densité de population.
Ils sont concentrés.
Ça change quand même beaucoup de choses.
Écoutez, vraiment, on s'aperçoit aujourd'hui que le confinement peut être utile. Le premier confinement, je pense, vraiment a été utile. Il fallait le faire. Aujourd'hui, il faut protéger les Français fragiles. Il faut soigner. Il faut augmenter les lits de réanimation et les lits d'hôpitaux. Et j'ai proposé de rouvrir le Val-de-Grâce, qui est vide à Paris. J'ai proposé de rouvrir des services. Ce n'est toujours pas fait. Donc, je demande au gouvernement de se donner les moyens d'éviter le confinement et pas d'attendre. C'est une sorte de drôle de guerre. On attend. Alors, on va décider le 6 mars quoi, puisqu'on ne fait rien en attendant. Si ce n'est d'enfermer les gens le week-end pour pas qu'ils aillent sur la plage au grand air, alors ça leur ferait le plus grand bien.
Nicolas Dépondier, on va revenir avec vous parce que finalement, vivre avec le virus, eh bien, vous avez des propositions. Et on retrouve Nicolas Dupont-Aignan, donc président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle ce jeudi lors d'une conférence de presse en marge du Conseil européen. Le président de la République a présenté une idée de la création d'un pass sanitaire. On écoute, on regarde.
Nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Je ne vais pas ici préempter ce sujet, mais c'est un sujet important pour permettre de réouvrir ces lieux.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, le pass sanitaire, au fond, ça existe un peu déjà, parce que c'est le carnet de santé. Il y a des vaccins obligatoires pour aller à l'école, par exemple, ou pour voyager dans certains pays. Et vous estimez pourtant que ce pass sanitaire, c'est un piège. Pourquoi ?
Parce que, j'entends le président de la République, il veut qu'on s'enregistre. Donc d'abord, on enregistre tous les Français.
Mais on le fait déjà.
Et puis, vous n'avez pas écouté la suite, pour aller au cinéma, pour aller se promener à l'intérieur du pays. Je ne parle pas d'un pass, à la rigueur, qu'un pays étranger demande des conditions pour rentrer chez lui, c'est son droit. Je respecte les nations. Mais qu'à l'intérieur du pays, on veuille enregistrer tous les Français, avoir leurs conditions de santé, et que pour circuler à l'intérieur du pays, on soit obligé de montrer patte blanche, je le dis, je le combattrai de toutes mes forces, et j'appellerai tous les Français à le combattre. Ça sera d'ailleurs un choix intéressant. En 2022, les Français savent désormais qu'avec Emmanuel Macron, ils seront fichés, enregistré, parce que l'affaire sanitaire n'est qu'un prétexte pour changer de société.
La possibilité de changer de société. Dans les salles de sport, dans les salles de spectacle,
attendez,
de revivre. Non ? Allez-y.
La sécurité sociale vous suit. Une carte vitale, c'est aussi une façon d'enregistrer tout un tas de données de santé. Donc,
excusez-moi.
Quel est au fond le problème qui vous... Pourquoi s'opposer à ce point-là, à cette mesure, à ce pass sanitaire ?
Nicolas Barré, quand vous vous promenez en France, que vous allez au cinéma, au théâtre, dans un restaurant, vous ne montrez pas avec une QR code votre carte vitale et le restaurateur, le cinéma, ne va pas regarder votre condition sanitaire. On est dans un changement, je finis juste pour répondre, de nature absolument énorme. D'accord. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se produire.
Et vous réalisez
enregistrer tous les Français,
mais
je vais y répondre. Enregistrer tous les Français, avoir toutes leurs données de santé. Mais si Poutine ou Trump avaient proposé ça, vous seriez tous outrés. Premier point. Deuxième point, et Michael Darmon a raison de poser la question en disant « Oui, mais il y a des conditions sanitaires. » Mais le problème, justement, en plus, c'est que ce pass sanitaire ne serait pas efficace. Pourquoi ? Parce que le vaccin peut être une fausse protection. J'ai amené, parce que je savais que j'aurais une question là-dessus, ce qu'il y a sur le site internet de Santé publique France. Vous l'avez là. C'est sur le site internet. Tous les Français peuvent le lire. Les vaccins disponibles réduisent la sévérité des symptômes, mais la réduction de la contagiosité est incertaine. C'est écrit en gros. Oui, mais alors ça veut dire quoi ? Au-delà du problème de liberté, de fichage généralisé, que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on va limiter les déplacements dans notre pays, autoriser, discriminer l'accès aux restaurants, aux cinémas, aux salles de spectacle, en fonction d'un pass qui, en fait, n'est pas exact pour deux raisons. D'abord, parce qu'il ne protège pas de la contagiosité, on n'en est pas sûr. Et deuxièmement, parce que avec les variants, le temps qu'on ait vacciné tout le monde, parce que pour faire un pass sanitaire, il faudrait qu'on puisse vacciner tout le monde. Le gouvernement en est incapable. Oui, au jour d'aujourd'hui, je finis mon raisonnement,
allez-y,
si je peux me permettre.
Après,
je
vous écoute. Bien sûr, on va le compléter. Allez-y.
Le pass sanitaire, d'abord, on n'a pas vacciné tout le monde. Donc ça veut dire qu'on dit tout de suite, il y a la moitié des Français qui ne peuvent plus aller au restaurant, au cinéma. Complètement aberrant. Deuxièmement, comme le variant évolue, le variant sud-africain, il faut un nouveau vaccin. Le temps qu'on revaccine avec le nouveau vaccin, on ne pourra donc pas avoir tous les Français qui, au même moment, ont un pass efficace.
Nicolas
Dubois, ça veut dire qu'on est dans une situation de bureaucratie policière hallucinante.
Mais là, attendez, parce que là, vous réduisez ce projet de pass sanitaire à un passeport vaccinal. Or, le nom exact, justement, prouve que ça n'est pas uniquement la vaccination qui est englobée. Dans la description complète, on parle également de tests, d'un passeport ou d'un pass, en l'occurrence, qui permettrait de montrer l'état de santé de la personne qui le porte. Donc, ça n'est pas réduit uniquement à la vaccination, d'une part. Et deuxièmement, dans certains pays, on a bien vu à quel point ça permet aussi aux gens de reprendre une vie normale. En quoi pensez-vous que vous allez être suivi par les Français de ce point de vue-là ?
Mais écoutez, c'est les Français qui choisiront. S'ils veulent un système orwellien de contrôle bureaucratique absurde, avec un passeport, parce que derrière, excusez-moi, entre le vaccin, où on vous dit vous êtes protégé très longtemps, et un test PCR, vous allez faire un test PCR avant d'aller pour circuler. Je vais au cinéma. Excusez-moi, je finis ma réponse. Après, je comprends votre impatience, mais j'essaie de finir ma réponse de manière structurée. Vous allez au cinéma, alors je vais faire un test PCR. Non, en vérité, c'est rendre le passeport obligatoire. Et c'est rendre le vaccin obligatoire.
Dire, oui.
Et je vais vous dire ce qui est encore plus absurde. Il y a 3 600 000 Français aujourd'hui qui ont eu la Covid, qui sont immunisés naturellement. Alors eux, comment on fait ? Ils ont le droit ? Ils ont un passeport ? Ou alors on les oblige à se vacciner alors qu'ils sont déjà immunisés naturellement ? Ça veut dire que derrière ça, les amis, derrière ça, il y a quoi ? Il faut que les Français le sachent. Il y a la vaccination obligatoire répétée. Parce que comme il y a des variants, Moderna, là, est en train de préparer la troisième dose. Donc ça veut dire qu'on va vacciner l'humanité entière tous les ans et qu'on va ficher les Français pour aller au cinéma ou ailleurs. Je me battrai avec tous les Français. Je suis certain que la France est un pays de liberté, qu'on ne peut pas l'accepter.
Mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, qu'est-ce que vous dites, par exemple, à une compagnie aérienne ou aux aéroports qui disent, on va demander des tests.
Excusez-moi, c'est totalement différent. Pourquoi ? Parce que quand vous voyagez, que vous fassiez un test, moi je l'ai fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie, j'ai fait un test, c'est normal qu'on me demande un test. Je l'ai réclamé aux frontières. Mais il y a une chose qui est de voyager de temps en temps et d'avoir un test pour voyager. Et il y a une chose de supprimer la liberté de circulation dans notre pays.
Et la liberté de l'économie de reprendre son fonctionnement.
Mais on peut...
Quand les entreprises ont des clubs de vacances, des compagnies aériennes, des pays vont dire pas de passage sans vaccination, c'est la rendre aussi obligatoire quasiment.
Oui, vous avez raison.
Et là, ça ne pose pas de problème.
Non, parce que la plupart des pays, vous savez, les pays touristiques, qu'est-ce qu'a dit l'Espagne, par exemple ? Elle a dit soit vaccination, soit test PCR, parce qu'ils ne vont pas se priver de millions de gens qui ne seront pas vaccinés. Enfin, le débat est surréaliste. Le gouvernement n'a vacciné que 6% des Français et est incapable de vacciner, même ceux qui le souhaitent. On sait qu'il y a des gens immunisés positivement, naturellement. On sait qu'il n'est pas bon de vacciner les jeunes parce qu'ils n'ont pas besoin de vaccin. Ils ont une défense immunitaire, ils ne risquent rien. Et on va calquer
un système privatif de liberté, mais de bureaucratie, pour uniquement une minorité de Français, qui devrait être soignée et protégée naturellement.
On entend votre discours depuis ce matin, oui. Très virulent contre les vaccins. Qu'est-ce qui vous retient? Cette méfiance, vis-à-vis des laboratoires, qu'est-ce qui vous retient?
Deux choses. D'abord, je me réjouirais que les vaccins fonctionnent. Je ne suis pas un anti-vaccin par principe.
Et vous en doutez aujourd'hui de cette efficacité?
Non, je dis deux choses. Je dis que le vaccin, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vacciner ceux qui ont un vrai risque. C'est-à-dire pour la Covid, quand vous avez une comorbidité.
Donc c'est le choix 93% du gouvernement de cibler les plus de 80 ans.
93% des personnes en réanimation dans notre pays ont des facteurs de comorbidité, ou 90%. C'est les statistiques santé publique. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une folie vaccinale qui s'est emparée du monde.
Mais pas en France. Pas en France.
Si,
on a à peine un peu plus d'un pour cent de la population
vaccinée. Mais parce qu'ils ont été incapables de le faire. Mais c'est pas lié. Le gouvernement a tout misé sur les vaccins. Ce que je dis juste, et le professeur Combe l'a très bien dit, le professeur Schwartz en Israël, c'est que le vaccin face à un virus qui mute est une course-poursuite sans fin. Il peut être utile pour des gens très malades, encore que, mais l'idée de vacciner toute la population pour ensuite ficher toute la population est une dérive dangereuse.
Mais
on n'a pas de recul sur ces vaccins.
Il y a d'autres vaccins qui sont
obligatoires. On n'a pas de recul sur ces vaccins. Oui, mais ce n'est pas la même maladie. Là, c'est un virus qui mute. J'ai pas l'impression qu'on ait dit la vérité aux Français sur les vaccins, sur ce virus. Et encore une fois, pourquoi pas pour certaines personnes qui ont un risque très fort. Mais vacciner toute la population, alors qu'il y a une immunité naturelle qui se fait, qu'il y a des millions de Français qui guérissent de la Covid, est une aberration même sanitaire. Et je pense, et je l'ai toujours dit, que le gouvernement est sous l'influence implicite de laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, c'est là où vous en venez depuis le début, en fait.
Mais parce que c'est la vérité, que tous les Français l'ont compris. Quand vous pensez qu'un médicament comme l'ivermectine, qui ne coûte rien, permettrait de soigner et d'éviter le passage en réanimation de milliers de Français qui sont morts et qu'on a un gouvernement qui bloque et que de l'autre côté, on vaccine avec des vaccins coûteux.
L'achat a été négocié par la Commission européenne, par l'Europe. Donc en quoi la France est-elle...
Boris Johnson est plus efficace.
Vous ne vous ferez pas vacciner
sous l'influence?
J'estime que je n'ai pas à me faire vacciner.
Non,
je n'ai pas de facteur de comorbidité et je pense qu'il est bien meilleur que l'immunité naturelle.
Mais quand ça sera possible, est-ce que vous ferez vacciner?
Non. Petite personnelle, non, mais je n'en veux pas aux gens qui se font vacciner. Parce que quand une personne à 75 ans a un risque et qu'il y a un vaccin disponible, le bénéfice du vaccin est sans doute supérieur au risque. Donc je n'ai pas de religion anti ou pour. Je ne veux pas que mon pays bascule dans un fichage généralisé, que les données de santé de nos concitoyens soient nécessaires pour aller au restaurant. Et je sais qu'il y a des mesures de précaution élémentaires, de gestes barrières, de soins qui permettront de surmonter le virus et de relancer l'économie et de vivre ensemble. Et je voudrais qu'on arrête cette psychose, ce catastrophisme, alors qu'on va s'en sortir et qu'on peut soigner.
Justement, Nicolas Dupont-Aignan, on se retrouve dans quelques instants parce que le quoi qu'il en coûte, eh bien, aussi une limite pour la dette. Et l'on retrouve Nicolas Dupont-Aignan. Question de Nicolas Barré.
Oui, la pandémie, c'est aussi un gros enjeu économique. Notre endettement, d'ailleurs, a beaucoup progressé depuis un an. La dette publique française est très élevée. Sur cette question de la dette, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut en annuler une partie ou qu'il faut tout rembourser?
Je dirais entre les deux. Une réponse de Normand.
Ça ne peut pas être entre les deux.
Si, je vais vous dire pourquoi ça peut être entre les deux. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se dire c'est fini et puis maintenant allez on rembourse tout, c'est impossible parce que l'enjeu économique et social c'est la sortie de la crise Covid. Et aujourd'hui, en tout cas ce que je propose, c'est qu'on ait une nouvelle action économique très forte qui va coûter un peu d'argent pour éviter le mur des dettes de nos PME. Car vous savez que le gouvernement a prêté, il y a eu 130 milliards de prêts, des PGE.
Ouais.
Et l'enjeu, c'est de dire clairement à nos chefs d'entreprise, ces PGE qui doivent être remboursés dans un an, deux ans, c'est impossible.
Prêt garanti par l'État.
Là, ça veut dire qu'il y a 1 million de chômeurs en plus. Il faut les étaler sur 20 ans. Donc la première décision que je prendrais, si j'étais en fonction, c'est de dire à tous les chefs d'entreprise qui ont eu un PGE, vous pourrez étaler ce PGE sur 20 ans.
D'accord.
Et vous pourrez, et c'est très important économiquement, transformer en prêt participatif, c'est-à-dire garantir les fonds propres. Il faut éviter que les mesures qui ont été prises positives du gouvernement sur le plan économique aboutissent à un choc d'un coup et on ait 1 million de chômeurs en plus. C'est vital. Deuxième mesure que je propose, c'est qu'on offre à 200 000 jeunes des travaux d'intérêt général, notamment tous les étudiants qui sont à la banque alimentaire. Et là, je regrette que le gouvernement n'ait pas une mesure efficace pour les jeunes. 200 000 travaux d'utilité collective dans nos hôpitaux, dans nos collectivités, pour leur donner des petits boulots qui permettent de poursuivre leurs études. Ça, c'est les deux points fondamentaux.
Qui viennent d'être annoncés pour les jeunes. Nicolas Barré. Mais la question portait sur la dette publique. Qu'est-ce qu'on en fait, du coup ?
La dette Covid, il y a deux choses. La dette Covid, aujourd'hui, elle est isolée à la Banque Centrale Européenne. Donc, on n'a pas à la rembourser tout de suite. On va la geler. On ne va pas l'annuler. Parce que moi, je n'annule aucune dette. J'estime être candidat à la présidentielle et j'estime que la France doit toujours honorer sa dette. C'est un principe de base. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on peut jouer avec la signature de la France. D'abord parce que la dette, ce sont des épargnants derrière. Et je veux rassurer les épargnants français, l'État, la France, doit toujours rembourser sa dette. Mais, en revanche, une dette peut être étalée. Et tout le monde sait, les États-Unis, la Chine, tous les pays du monde, en fait, vont geler la dette Covid. Elle sera dans les comptes de la Banque Centrale Européenne et on ne la remboursera qu'à la cinglinglin, c'est-à-dire dans 50 ans. Sinon, on ne s'en sortira pas.
Donc lorsque Marine Le Pen écrit pour dire qu'il faut rembourser cette dette, vous êtes d'accord avec elle ?
Mais tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une personne sensée, à part M. Mélenchon, qui dit que la France peut abandonner sa signature. En revanche, on a le moyen de l'étaler. Pourquoi il faut l'étaler ? Et pourquoi c'est vital ? Parce que nous avons une compétition mondiale avec la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, le plan Biden, c'est 1900 milliards. Ça veut dire qu'ils vont investir dans la science, dans la technologie, dans la production. Et vous savez que tout mon programme présidentiel, c'est le produire en France. Je veux qu'on investisse massivement dans la relocalisation. 1 million d'emplois relocalisés. Si on n'a pas une marge de manœuvre financière, comme l'ont les États-Unis ou la Chine fait marcher la planche à billets, comme les États-Unis. Et si l'Europe, en revanche, bloque tout sous la pression de l'Allemagne, nous deviendrons un continent de seconde zone scientifique économique.
Alors on y reviendra, mais
pour l'instant, un plan de relance qu'elle bloque tout.
Entre nous,
aujourd'hui.
Vous avez raison, Nicolas Barré, sur un point, c'est qu'on est sorti de l'orthodoxie allemande excessive, mais je vois que la commission de Bruxelles revient au galop, puisque M. Le Maire est obligé de quémander à Bruxelles les prêts participatifs des PME. Or, j'estime que si on ne fait pas comme M. Biden, c'est-à-dire que si on ne fait pas une seconde phase de plan de relance pour réussir la mutation technologique, nous aurons des enfants qui auront des emplois de livreurs à vélo et pas des emplois industriels. Nous devons relocaliser en France. C'est tout mon programme présidentiel, relocaliser 1 million d'emplois. Et pour ça, il faudra utiliser l'épargne des Français. Et je propose un livret production en France.
On va y revenir, Nicolas Dupont-Aignan. On passe donc à la sécurité et aux risques justement qui atteignent votre territoire cette semaine. Damien Fleureau.
Oui, la guerre des bandes. En l'espace de 24 heures, deux adolescents sont décédés lors de rixes en région parisienne. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'envoi de renforts, notamment dans votre département. Écoutez ce qu'il disait, il lance un message aux familles.
C'est aussi le rôle parental qui est important, puisque quand on a des enfants de 13 ou 14 ans, qui ont déjà parfois connu d'ailleurs des méfaits avec la police ou la gendarmerie, c'est bien sûr l'autorité des parents qu'il faut remettre en avant.
Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que Gérald Darmanin a raison? Le rôle des parents et plus globalement sa politique va-t-elle dans le bon sens? Des moyens supplémentaires sur le terrain?
D'abord, vous savez, c'est dans mon agglomération Val-de-Seine, où j'étais président pendant des années, j'ai été à Boussy-Saint-Antoine, où un jeune de 13 ans sur un coup de couteau. C'est un désastre humain pour les familles. Votre enfant part au collège, il ne revient pas. Bien sûr, il y a l'autorité parentale. Vous savez, dans ma ville, hier, et mon successeur, Olivier Clodon, continue, on recevait les parents dès qu'il y avait un délit de mineur et après un dialogue, on supprimait les allocations facultatives municipales pour 3 mois, 6 mois. C'était une condition de la remise en ordre de la famille, si je puis dire. L'État m'a accusé. L'État a déféré mon arrêté la première fois. Donc, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est qu'on généralise l'expérience que j'ai expérimentée dans ma ville, qui a marché. J'ai remis droit beaucoup d'enfants, parce qu'on était les seuls à dire à un moment à une famille, stop. Mais j'aimerais que ce soit généralisé dans toute la France, c'est-à-dire suppression des allocations quand il y a des mineurs délinquants qui en sont, par exemple, à leur 40e délit et que la justice n'a rien fait. Car dans cette affaire, pourquoi les mères sont au premier rang? C'est parce que le problème n'est pas seulement le problème des parents. C'est le problème de la justice en France.
Vous pensez qu'en fragilisant encore plus les familles qui déjà sont défaillantes dans l'autorité, vous allez pouvoir remettre sur le
droit
chemin? Alors attention,
il ne s'agit pas, il faut agir. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut être très précautionneux. C'est pourquoi on recevait la famille, on étudiait leur situation. Et souvent, on dosait les réductions. C'était quelque chose de très cousu main, si je puis dire. Et ça a joué son rôle. Donc vous avez raison, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Et où vous avez raison aussi, c'est qu'il est un peu facile, et c'est ce qui m'a un peu choqué dans la prise de position de Gérald Darmanin, de toujours accuser les familles, quand là, c'est un problème, en l'occurrence à Boussy-Saint-Antoine, c'est un problème de suivi judiciaire et de suivi policier. Le département de l'Essonne est le département le moins doté en policiers d'Île-de-France. Il nous manque 200 policiers par rapport à la moyenne.
La justice des mineurs, vous ne l'avez pas voté, Nicolas?
Sûrement pas, parce que c'est une réforme... attendez, je finis, parce que... Donc, d'abord, il faut rattraper le retard d'effectifs. Et ce que je regrette, c'est qu'il faut qu'il y ait un jeune de 13 ans poignardé, deux dans mon département, pour que tout à coup, on nous envoie des effectifs. Donc, renforcer les effectifs. Deuxièmement, il faut que la justice fasse, et on vient à la réforme des mineurs, la justice, à un moment, mette en place des vraies sanctions. Il y a une semaine, les syndicats de policiers me racontaient qu'à Grigny, un jeune a été pris avec un couteau, dans une bagarre, 14 ans. La justice l'a relâché immédiatement, il a eu un simple rappel à la loi.
Pourquoi n'avez-vous pas voté la réforme de la justice des
mineurs ? Parce que cette réforme continue sur la voie du laxisme le plus total.
Elle vise à accélérer les procédures ?
À accélérer les procédures pour qu'il n'y ait que des peines alternatives. J'ai voté contre, car je veux un système à l'anglaise. J'ai été visité en Angleterre. En Angleterre, vous volez un portable à 15 ans, vous allez dans un établissement fermé pendant 8 jours, avec psychologue, analyse, il y a un avertissement. En France, vous êtes à votre 50e délit, vous n'avez jamais une peine d'avertissement.
D'accord.
Et dans mon projet présidentiel, chaque délit, une condamnation et une peine réelle.
Nicolas
Tolérance,
Barré,
zéro.
On continue.
D'accord. Vous avez aussi voté contre
chantiers.
La loi sur le séparatisme. Alors, on ne comprend pas très bien, parce qu'en janvier, chez un de nos confrères, vous disiez que cette loi allait dans le bon sens, qu'elle contenait de bonnes choses, qu'il fallait même d'ailleurs le reconnaître. Et que vous la voteriez probablement. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
L'hypocrisie.
De qui ?
Bah, du gouvernement.
Qui c'est vrai qu'il y avait... d'un coup entre janvier...
qui est apparu dans toutes les discussions, parce qu'il y a heureusement des débats au Parlement. Mmh. Et ce qui est impressionnant, c'est que d'un côté, on nous faisait une loi, et il y avait un discours qui était... quel discours que j'attendais, en fait, depuis 20 ans. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans cette émission, enfin, il y a un discours qui me paraît intéressant. Et il y a quelques dispositions. Et puis au fur et à mesure de la discussion, on a vu qu'en vérité, c'était une loi d'affichage. Sur le financement des lieux de culte, c'était juste un contrôle et on continuait à voir arriver de l'argent de Turquie, du Qatar et d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'interdiction que j'avais proposée. Sur le voile des fillettes, un amendement intéressant de Mme Berger, qui est de la majorité, a été rejeté. Totalement. Or, le premier séparatisme,
ça,
c'est d'imposer le voile à sa fille de 2 ans. C'est le premier séparatisme. Et là, on nous a expliqué que ce n'était pas la question, que ça n'avait rien à voir avec le séparatisme. Et troisièmement, ce qui m'a le plus impressionné pendant cette discussion, c'est qu'à aucun moment, Gérald Darmanin n'a reconnu qu'il y avait un problème d'immigration en France. C'est-à-dire qu'on nous parle de séparatisme et on continue à avoir 250 000... personnes qui arrivent légalement sur le sol français. On continue à avoir 130 000 demandeurs d'asile.
Le gouvernement estime
et
qu'il
on
peut
est
y avoir un lien,
de
mais
les expulser
pas un lien
quand on refuse.
Permanent. Le gouvernement estime qu'il peut y avoir un lien, mais qu'il n'est pas un lien permanent.
Attendez. Moi, vous savez, je défends l'assimilation. Et tout mon projet présidentiel, ce sera l'assimilation, parce que je ne veux pas qu'on nous concentre uniquement sur le séparatisme. Il y a le volet séparatisme, et puis il y a le volet assimilation. Service national, école du mérite, internat, récompense du travail, lutte contre l'assistanat. Donc, pour moi, il y a les deux. Mais je ne peux pas voter pour un texte qui est du cinéma et qui trompe les Français. Il faut de vraies mesures pour bloquer l'immigration. Je veux supprimer le droit du sol, suspendre le regroupement familial, mettre fin au droit d'asile automatique, c'est-à-dire centre de rétention, et on n'accepte que ceux qui ont des dossiers acceptables et le reste est expulsé immédiatement. Vous ne traiterez la question du séparatisme en France que si vous traitez la question de l'immigration. Tout le reste, c'est de la littérature.
Alors, justement, à ce propos, Damien Fleurot, sur d'autres intentions, d'autres personnes qui pourraient éventuellement travailler avec vous.
Oui, Éric Zemmour, notamment, vous l'avez rencontré, hein, selon nos confrères du Nouvel Observateur, le 5 février dernier. Dans quel objectif ?
Parce que, vous savez, je connais Éric Zemmour depuis 30 ans. C'est un homme de grand talent qui fait avancer des idées. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur tout. On a des points de nuance, de désaccord parfois, mais très réduits, mais il y en a quand même. C'est comme Michel Onfray, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense que Michel Onfray et Éric Zemmour sont deux personnalités d'influence qui peuvent aider un candidat patriote comme moi à mettre en œuvre dans notre pays un changement de cap profond.
En fait, vous pensez qu'ils seront, ils peuvent pas être candidats, mais qu'ils peuvent venir vous aider. Quand vous avez dit à Éric Zemmour, il faut mettre les égaux de son côté, vous avez plutôt pensé au sien et pas au vôtre.
Je ne sais pas. Éric Zemmour n'est pas candidat au jour d'aujourd'hui. Il ne l'est pas.
Vous pensez qu'il ne le sera pas ?
Je n'en sais rien. Vous lui poserez la question. Moi, je suis candidat. J'ai un projet établi. J'ai 7% des Français qui me soutiennent aujourd'hui. Je pense avoir un projet patriotique sérieux, parce qu'on ne gagnera face à Emmanuel Macron que si on est crédible, que si on a un projet sérieux. Je veux faire gagner les souverainistes en France avec un projet capable de rassembler. Et je pense qu'Éric Zemmour et Michel Onfray sont deux personnalités qui apportent beaucoup. Voilà, maintenant, on verra si Éric Zemmour est candidat. C'est son choix. J'aime trop la liberté de chacun pour lui dénier sa liberté. Voilà.
Alors justement, comment pouvoir rassembler les Français, les populistes, les souverainistes et les autres ? On se retrouve dans quelques instants. Et Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France. Question de Nicolas Barré.
Oui, Mario Draghi en Italie. Alors Mario Draghi, qui est un centriste, ancien président de la Banque Centrale Européenne, a fait alliance avec les populistes qui ont mis du coup beaucoup d'eau dans leur vin, notamment sur l'Europe. C'est ça le sens de l'histoire ? C'est que cette frange de l'opinion rejoigne les centristes ?
La technocratie libérale ?
Ne prenez pas vos désirs pour des réalités.
Non, on constate. Non, on prend nos constats pour des faits.
Je pense que la situation de l'Italie est particulière. Voilà. Moi, je pense qu'en France... la manière dont Emmanuel Macron gouverne depuis maintenant 4 ans, où en fait il divise beaucoup les Français, il n'apporte pas des solutions, il a trompé les Français en 2017, exige un changement de cap profond. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Le choix, il est très simple pour 2022. C'est est-ce qu'on continue avec Macron ou est-ce qu'on change de cap ? Et je considère que pour changer de cap, c'est-à-dire produire français, c'est-à-dire vraiment mettre en place une politique de relocalisation, restaurer l'ordre, bloquer l'immigration, reconstruire nos services publics, réinventer la démocratie par le référendum d'initiative citoyenne, j'y crois beaucoup.
C'est-à-dire proposaient les Gilets jaunes, ce référendum
fait,
que les
le
Gilets
RIC,
jaunes proposaient.
Oui, parce que je crois qu'il ne s'agit pas de remplacer un roitelet par un nouveau roitelet. Je pense qu'il y a eu une dérive du pouvoir sous Emmanuel Macron. Et moi, je ne suis pas là pour remplacer Emmanuel Macron et faire la même chose. Je pense que la Ve République a dérivé, que le général de Gaulle n'a jamais voulu un système comme cela, où un homme seul décide de tout. Je pense qu'il faut que les Français reviennent à l'Élysée, et je veux gouverner par référendum, parce qu'on débloquera la société française sur l'immigration, sur l'école, sur le code pénal, sur l'Europe, par des référendums. Donc je pense qu'il y a une vraie révolution citoyenne à mettre en œuvre, pour changer le pouvoir, et je pense que ça passe par une victoire face à Emmanuel Macron. Et pour cette victoire, je pense qu'il ne faut pas le duel qu'on nous prépare. Parce que je pense que Marine Le Pen est incapable de gagner. Et donc, à partir de là, je suis candidat parce que je pense que mon programme est beaucoup plus sérieux que le sien, et je pense que je suis capable de rassembler des Français de tous horizons. Et c'est ça l'enjeu de ma candidature. C'est une candidature gaullienne, au-dessus des partis.
Alors tout de même, avant qu'on y revienne plus précisément, il y a quand même ce sens de l'histoire qu'évoquait à l'instant Nicolas Barré. Et on voit également que Donald Trump, lui qui continue à vouloir contrôler aussi le Parti républicain, reprend la parole, continue à faire des discours. Est-ce que, au fond, ce qu'il a représenté pendant son mandat, est-ce que ça reste encore un courant puissant pour vous, à la fois aux États-Unis et également pour vous en France ?
Pas du tout. Je crois pas qu'on puisse plaquer du tout la situation américaine sur la situation française. Je pense que le peuple français, nous sommes différents des États-Unis, nous sommes différents
d'Italie. Pourtant, il y a eu également ce mouvement, je dirais, avec les Gilets jaunes, qui était une contestation de l'élite que vous voulez intégrer.
Mais regardez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au début, c'était un mouvement de gens qui travaillent dur, qui n'en peuvent plus de l'assistanat, qui veulent le droit de travailler. Et ça, c'était positif, qui en ont marre de payer toujours plus d'impôts, de recevoir toujours moins et d'être dans un système où il n'y a pas de croissance. Après, ça a dérivé parce que des gauchistes ont repris le mouvement. Moi, je pense que la situation française est différente. Je pense que notre pays a des atouts. Je pense que les Français veulent reprendre le contrôle. Je veux qu'on reprenne le contrôle de notre pays, qu'on ne soit plus dépendant de Bruxelles comme on l'est, qu'on réinvente une Europe des nations et des projets pour affronter la Chine et les États-Unis. Je pense qu'on doit rétablir l'ordre en France. Je pense qu'il faut produire français et reconstruire nos services publics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un contrat moral avec la population sur un projet simple de reconstruction et de sauvetage du pays. Il ne s'agit pas d'amener une idéologie trumpiste ou de revenir... Moi, je pense qu'on n'en est pas du tout là. Le pays est en train de mourir parce que les Français n'ont plus le contrôle. Il n'y a plus de pilote démocratique. Il faut simplement... reprendre le contrôle du pays.
Reprendre le contrôle, c'est effectivement l'expression des populistes, de Johnson. Et d'ailleurs,
Excusez-moi, Michael Darmon, de vous interrompre. Ce qu'a fait Johnson, il a réussi à produire des vaccins quand personne n'y arrive. Il a réussi à négocier un accord avec l'Europe où il a accès au marché unique, mais il ne paye plus 10 milliards. Il contrôle ses frontières.
C'est plus lui, votre exemple, que Donald Trump.
Un mot beaucoup sur la situation Donald Trump.
Politique nationale 2022 qui approche la présidentielle. Vous êtes candidat, les sondages ne vous donnent pas finaliste. Regardez cette une publiée par Libération, où l'on voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron dos à dos. Alors, selon les témoignages recueillis par le quotidien, à gauche, on ne voudrait plus faire barrage à Marine Le Pen. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan ?
Eh bien, écoutez, cette image, elle montre exactement ce dont ne veulent pas les Français. C'est quand même extravagant qu'il y a 70% des Français, dernier sondage, avant c'était 80, 70, allez, les trois quarts des Français, qui ne veulent pas de ce duel Macron-Le Pen parce qu'ils ne veulent pas d'un mauvais président et d'une mauvaise candidate. Et toute la presse, tout le système politico-médiatique, c'est pas de votre faute, mais... ne parle que de ces deux candidats.
Et pourtant,
eh bien, moi, j'offre aux Français...
Sonde. Attendez. Vous êtes présent dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan.
Mais d'accord, mais c'est déjà pas mal. Je suis passé de 0 à 7 avec 0,5% de temps d'antenne. 0,5% de temps d'antenne. 7%, c'est un bon socle qui me permet d'accéder au second tour. Et je dis aux Français, je m'adresse à tous les Français.
À 7%, vous êtes au second tour.
Je peux accéder si je me bats. Il reste 12 mois et je peux passer de 7 à 20. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Et il n'y a aucune raison qu'on subisse ce duel Macron-Le Pen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez, et c'est l'intérêt de cet article de Libération, une grande partie de la gauche qui ne veut plus voter pour Macron. Et vous avez une grande partie de la droite qui ne veut pas voter pour Le Pen. Et on va se retrouver, si on continue comme ça, avec ce duel dont ne veulent pas les Français. Je dis aux Français, je me présente pour faire mentir ce scénario écrit d'avance. Je présente un projet. Oui. Et puis on verra.
On va voir aussi
maintenant,
si vous arrivez
ça l'enjeu.
À faire mentir effectivement l'évolution en général vers la compétition, où là, votre score en général ne va plutôt à la baisse. Mais justement, dites-nous, là, puisque c'est le moment de le dire, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Marine Le Pen ?
Vous avez
rejoint en 2017.
Mais quand M. Bertrand, ce qui me surprend toujours...
Je vous pose la question à vous.
Mais je vais vous répondre. Mais quand vous interviewez, vous recevez M. Bertrand... Vous lui demandez jamais ce qui le différencie de Macron, alors qu'il l'a soutenu corps et bien.
Vous avez fait alliance en 2017.
Excusez-moi,
vous avez annoncé que vous
allez
rejoindre.
Attendez, excusez-moi. Les Républicains, M. Fillon, M. Bertrand, ont soutenu M. Macron sans condition un quart d'heure après leur défaite. Un quart d'heure. Moi, j'ai négocié pendant 4 jours un projet. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxième point, je ne renie en rien ce que j'ai fait parce que j'ai dit aux Français à l'avance ce qu'allait être Emmanuel Macron. Et au moins, j'ai pris mes responsabilités. Mais ça me donne quand même l'avantage d'avoir connu de près, d'avoir vu le désastre du débat du deuxième tour, d'avoir vu les limites. Et c'est
de
pourquoi
Marine
je
Le Pen,
suis
là, vous
bien sûr, et c'est pourquoi je suis candidat. Et je sais très bien qu'il y a des millions d'électeurs du Front National, qui étaient d'ailleurs des électeurs RPR. J'étais gaulliste, RPR. qui veulent revenir vers nous à condition qu'on puisse gagner. Et ils savent au fond d'eux-mêmes que Emmanuel Macron a choisi Marine Le Pen comme adversaire parce que c'est sa seule bouée de sauvetage. Donc, les différences, vous les connaissez. Le parcours, j'ai été maire pendant 22 ans et j'ai désendetté une ville, désendetté complètement une ville, et je sais ce qu'est la bonne gestion.
Alors,
et je crois, et ma différence principale, c'est que le projet économique que je porterai à la présidentielle sera un projet qui permettra aux patriotes de gagner en France parce que nous sommes capables de gérer.
Pour bien justement, alors il reste une minute pour bien clarifier, Nicolas Dupont-Aignan, pour bien clarifier en quelques secondes
oui.
D'ailleurs maintenant, vous avez parlé très souvent de votre projet Made in France, d'autres également en parlent, Montebourg, Bertrand, est-ce que vous êtes prêt à le rejoindre dans cet arc souverain républicain qu'ils mettent aussi en avant?
Mais ils peuvent me rejoindre aussi, et puis Xavier Bertrand, on ne connaît pas son programme sur beaucoup de choses. Xavier Bertrand a soutenu Emmanuel Macron et est plus proche d'Emmanuel Macron que de moi.
Bon, aujourd'hui, le combat, c'est clair.
Il le combat en surface, mais quand vous regardez les grands choix européens, les grands choix économiques, c'est très proche. Donc, moi, je propose un projet patriotique, sérieux, républicain, pour redresser le pays. Maintenant, c'est aux Français de choisir. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection de parti. Les Français n'appartiennent ni au Rassemblement national, ni à Debout la France, ni au LR, ni à M. Macron. Ils appartiennent... Ils ont leur libre arbitre. Et ce sera le choix de la liberté et le choix de la nation. Maintenant, libre aux Français de voter pour qui ils veulent, mais qu'on leur laisse le choix.
Eh bien, c'est justement ce que l'on a, en tout cas, fait aujourd'hui. Merci,
eh bien, merci de votre invitation.
Nicolas Barret, Damien Fleurot.
À
dimanche.
Le grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews.